Il existe des gens qui aiment bien les nombres, mais ce ne sont pas tous des mathématiciens ou des comptables. Il y a aussi ceux qui sont accrochés au jeu de hasard, à certaines pratiques occultes, ou qui sont superstitieux, redoutant en particulier le chiffre 13. Cependant, il existe aussi des nombres qui, dans les textes sacrés, ont une forte connotation religieuse, comme 3, 10, 12, 40, ou encore 7, qui indiquent la plénitude, l'achèvement, le comble d'une chose. Je donne quelques exemples. Dieu s'est reposé le septième jour. Les armées d'Israël firent le tour de Jéricho 7 fois. L'officier syrien Naaman a dû se plonger 7 fois dans le Jourdain avant d'être guéri de sa lèpre. Quand Joseph dirigeait l'Égypte, il y a eu 7 années d'abondance, suivies du même nombre de famines. Nabuchodonosor perdit la raison pendant 7 ans. Et dans le Nouveau Testament, la prière du Notre Père compte 7 requêtes. Jésus a multiplié 7 pains pour nourrir une foule, et quand il est sur la croix, il a parlé 7 fois. Dans l'Apocalypse, le nombre 7, que ce soit en chiffres ou en événements consécutifs, revient très souvent. D'ailleurs, dès les premiers versets, il est question de 7 églises et de 7 esprits. Je continue maintenant à lire dans le premier chapitre de ce livre. Jean salue les 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui se tiennent devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Versets 4 et 5. La grâce et la paix sont données de la part des 3 personnes de la Trinité. Celui qui est, qui était et qui vient est Dieu le Père. Un écrit juif, le Targum de Jérusalem, utilise l'expression « celui qui était et qui sera » pour définir Dieu. Les 7 esprits qui se tiennent devant le trône sont une référence au Saint-Esprit, même s'il s'agit là d'une façon peu commune de parler de la troisième personne de la Trinité. Ces esprits se rapportent aux 7 chandeliers d'or dont il va être question plus loin. La grâce et la paix sont dispensées par le Père, l'Esprit et par Jésus-Christ qui est appelé le témoin fidèle. Dans le livre d'Ésaïe, quand l'Éternel mentionne l'une des qualifications du Messie, il dit « Voici, j'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un chef pour commander au peuple. » Jésus a été fidèle à sa vocation en se montrant persévérant jusqu'à la mort ignominieuse de la croix. Il est également le témoin fidèle en tant que source de la révélation qui va être donnée à Jean. Jésus a toujours été digne de foi et d'être cru. Il a dit au gouverneur Ponce Pilate, « Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. » Non seulement Jésus est le témoin digne de foi, mais il est également le premier-né d'entre les morts, ce qui décrit sa résurrection. Le mot traduit par « premier » ne veut pas dire « premier » d'une séquence de plusieurs, car d'autres gens sont revenus du royaume des morts avant Jésus. Ce mot indique sa prééminence, sa supériorité. Par contre, Jésus est le premier et le seul à être ressuscité avec un corps éternel glorifié, ce qui est le gage d'autres résurrections comme celle, entre autres, des personnes qui meurent martyrs pour Jésus-Christ pendant le temps de l'Église. Quand le Seigneur viendra chercher les siens, tous les croyants, autant les morts que les vivants, seront transformés, métamorphosés, et recevront un corps de résurrection semblable à celui de Jésus. Troisièmement, Jésus est appelé le souverain des rois de la terre. Cette distinction est enseignée maintes fois dans toutes les Écritures. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Comme je l'ai déjà dit, l'apôtre Paul écrit que Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». La suprématie de Jésus sera amplement manifestée quand il viendra pour instaurer son royaume 2000 ans. Dès le début du livre, Jean met en avant et en évidence la fidélité du témoignage de Jésus, sa résurrection et son règne à venir. Ces trois caractéristiques seront développées tout au long de la vision. Je continue le texte. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Après avoir considéré l'œuvre de Jésus-Christ en faveur des croyants, Jean entonne une prière d'adoration à la gloire du Seigneur. Jésus aime les siens d'un amour dont nous ne pouvons comprendre ni l'étendue ni la profondeur. L'apôtre Paul écrit « Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Cet amour s'est pleinement exprimé quand Jésus nous a délivrés de nos péchés par son sang, en s'offrant en sacrifice sur la croix pour expier mes péchés et les vôtres. Le sang que le Christ a versé n'est pas un symbole, mais une réalité qu'il a fait souffrir. L'Éternel a dit au peuple d'Israël, « L'autel fait le rite d'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. » L'apôtre Pierre a bien mis en avant la valeur du sang du Christ quand il écrit « Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. » La doxologie de l'apôtre Jean est aussi la substantifique moelle de la bonne nouvelle en Christ. À tous ceux qui croient en l'amour de Jésus pour eux et qui lui font confiance, Dieu pardonne leurs péchés et les en libère. Il les libère aussi de la mort et du châtiment. C'est parce que la justice de Dieu a été satisfaite que le Père peut nous faire grâce. Par son sacrifice, Jésus a également fait des croyants un peuple qui lui appartient et sur lequel il règne même aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, le royaume du Seigneur est l'ensemble des fidèles qui constituent l'Église universelle. Les croyants sont appelés sacrificateurs, c'est-à-dire prêtres, parce qu'ils ont accès à Dieu. Jean décrit les membres de l'Église à peu près comme l'Éternel envisageait son peuple quand il lui a dit « Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte ». C'est une terminologie que l'apôtre Pierre reprend quand il écrit « Vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte ». Il est aussi intéressant de remarquer que Jésus a fait des croyants des sacrificateurs pour Dieu son Père, et non pas pour Dieu notre Père. Cette distinction n'est pas une simple nuance, mais correspond à une doctrine. En effet, Jésus est le Fils éternel et unique du Père au sein de la Trinité, une place qui n'a aucune commune mesure avec celle des croyants qui sont devenus enfants de Dieu par régénération et par adoption. Finalement, j'en conclus sa doxologie par une louange au Seigneur en disant « À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Ce dernier mot veut littéralement dire « Qu'il en soit ainsi. » Jésus est celui qui décide ce qui se passe sur terre et tous les événements qui s'y déroulent concourent à sa prochaine venue. Il faut en effet garder à l'esprit que non seulement tout a été créé par lui, mais également pour lui. Le livre de l'Apocalypse se présente comme un roman d'aventure à rebondissements multiples et aussi comme un film d'épouvante. Tout au long de ses pages, il renferme un suspense palpable, des drames, du mystère et des passions déchaînées. Jean décrit des catastrophes naturelles sans précédent et les intrigues politiques qui conduisent à la montée en puissance du dictateur le plus teigneux et le plus puissant que le monde ait jamais connu. Il nous introduit aussi dans la salle d'audience où a lieu le jugement dernier de tous les impies, anges et hommes, et nous fait assister à l'exécution de leur sentence. Il nous fait également découvrir un nouveau monde où le péché, les larmes et la mort seront bannis à jamais. Et il raconte la félicité éternelle des rachetés dans la nouvelle Jérusalem céleste. Mais tous ces événements concourent à mettre en valeur la primauté et la majesté du roi des rois. Je continue le texte. « Voici, il vient au milieu des nuées. » Et tout le monde le verra, et même ceux qui l'ont percé et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Verset 7. Après l'introduction, les salutations d'usage et un hymne d'adoration qui résonne encore, nous abordons le vrai sujet du livre, la venue du roi. Il est introduit par l'exclamation « Voici ». Qui est le premier appel au lecteur à redoubler d'attention. Il y aura encore 24 « voici » dans le livre. « Voici, il vient » est le thème du livre de l'Apocalypse, et le temps présent du verbe signifie que le roi est déjà en route, que sa venue est certaine et imminente, ce que Jean a déjà dit deux fois. Honnis soient les moqueurs dont parle l'apôtre Pierre qui disent « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Ces moqueurs sont les matérialistes qui veulent coûte que coûte tout expliquer par des processus naturels comme le transformisme, rejetant ainsi la présence pourtant évidente de la main du Dieu Tout-Puissant. Cette venue de l'Éternel, ou de Jésus, est mentionnée plus de 500 fois dans les Écritures. Il est vrai que Jean annonce ici le grand retour de Jésus en tant que Messie qui viendra pour établir son royaume. Cependant, tout croyant doit personnellement attendre le retour du Seigneur parce qu'il a promis de revenir pour chercher les siens, pour enlever son Église au ciel. De plus, il est probable qu'en disant « Voici, il vient !» Jean a également à l'esprit la manifestation de Jésus qui vient pour évaluer cette église d'Asie et rendre compte à chacune d'elles de ses observations. Quand le Seigneur retournera sur terre pour instaurer son royaume, il ne passera pas inaperçu mais viendra au milieu des nuées. Cette mention rappelle une vision du prophète Daniel qui dit « Sur les nuées du ciel ». Je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Dans les Écritures, la nuée accompagne généralement les manifestations de la gloire de Dieu. Par exemple, quand l'Éternel a donné à Moïse les tables de la loi, on lit qu'il y eut des coups de tonnerre et des éclairs, une épaisse nuée couvrit la montagne et l'on entendit un son de corne très puissant dans le camp. Tout le peuple se mit à trembler de peur. Et sur la montagne, quand Jésus fut transfiguré, le texte dit qu'une nuée se forma et les enveloppa. Et les disciples furent saisis de crainte lorsqu'ils entrèrent dans la nuée. Une voix sortit de la nuée qui disait « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Jésus ne reviendra pas incognito, car tout le monde le verra, même ceux qui l'ont percé. Ce sont les chefs religieux juifs qui ont rejeté Jésus et l'ont fait exécuter. Ils sont morts depuis longtemps et ils ressusciteront à la fin du millénium pour être jugés. Jean cite ici une prophétie de Zacharie qui dit « Ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils auront transpercé. Ils porteront le deuil pour lui comme on porte le deuil pour un enfant unique. Ils pleureront sur lui comme on pleure amèrement pour son fils premier-né. Le pays tout entier célébrera ce deuil, chaque famille à part. » Au moment de sa naissance à Bethléem, seuls quelques bergers qui forment le dernier échelon de l'échelle sociale ont vu Jésus. Quand il viendra dans les airs pour chercher ceux qui lui appartiennent, cette rencontre se fera en catimini. Par contre, quand il reviendra sur terre pour régner, ce sera entièrement différent. D'une part, le petit reste fidèle d'Israël tournera les regards vers celui que leurs ancêtres ont percé, et ce sera un mouvement national de repentance. Et d'autre part, le monde entier, même les incroyants, le verront. Les Juifs seront repentants, tandis que les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Le mot traduit par « lamenteront » signifie « couper » parce qu'il décrit l'attitude des païens qui se tailladent les chairs quand ils sont en proie à une grande détresse. Bien que terrifiés, les hommes ne se repentiront pas, mais gémiront sur leur propre sort. Plus loin, Jean écrit qu'ils ne renoncèrent pas à leurs meurtres, à leurs pratiques magiques, à leur immoralité et à leur malhonnêteté. Après avoir peint la fresque grandiose de la majesté du retour de Jésus-Christ, pour la deuxième fois, l'apôtre Jean lance un amen retentissant, déclarant par là qu'il en soit ainsi. Je continue le texte de l'Apocalypse. « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Verset 8. L'alpha et l'oméga sont les premières et dernières lettres de l'alphabet grec. Jean les mentionnera encore deux fois. Jésus est la somme de tous les alphabets et de tous les signes qui expriment une pensée, parce qu'il est la parole, la révélation complète de Dieu et sa communication aux hommes. L'alpha et l'oméga expriment l'idée que Dieu est le commencement et la fin de tout ce qui existe, qu'il est éternel, omniscient, omnipotent et même qu'il ordonne l'histoire humaine. C'est la deuxième fois que Jean utilise l'expression inhabituelle « celui qui est, qui était et qui vient » pour désigner la première personne de la Trinité. Jean l'emploiera une troisième fois. À la fin de l'Épître aux Hébreux, l'auteur utilise une expression équivalente quand il dit de Jésus qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jean appelle également Dieu le Tout-Puissant ou le Seigneur des armées célestes selon l'ancienne version grecque. Le mot pour Tout-Puissant est utilisé 10 fois dans le Nouveau Testament, dont 9 fois dans l'Apocalypse. Jésus est venu une première fois pour s'humilier. Il reviendra dans la gloire. Il est venu pour être mis à mort. Il reviendra pour détruire ses ennemis. Il est venu comme serviteur. Il reviendra en tant que maître absolu. Il est venu comme homme de douleur, il reviendra à titre de roi conquérant. Seuls ceux qui anticipent et attendent sa venue et qui le reconnaissent comme le roi légitime jouiront des bénédictions de son royaume. Je continue le texte. Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Verset 9. C'est la troisième fois que Jean décline son identité. Il s'identifie humblement à ses lecteurs dans leur expérience chrétienne. Il partage leur salut dans la communauté des rachetés et leur foi en la venue du royaume, ainsi que l'endurance nécessaire pour continuer à servir le Seigneur dans le creuset de la persécution. Le croyant connaît l'épreuve, mais il puise dans sa confiance en Jésus-Christ la force de persévérer, et c'est avec lui qu'il règnera en vainqueur. La révélation spectaculaire de Jésus-Christ rapportée dans l'Apocalypse a eu lieu à Patmos, une petite île volcanique de 150 km² située dans la mer Égée entre l'Asie mineure et la Grèce et à une centaine de kilomètres au sud-ouest d'Éphèse. Selon plusieurs pères de l'Église, comme Irénée, Clément d'Alexandrie et Eusèbe, c'est après avoir été pasteur de l'église d'Éphèse que Jean fut emmené prisonnier sur cette île. En fait, il était forçat, puisque même âgé de 90 ans, il devait travailler dans les mines. Son crime était d'avoir proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. En l'an 96, après la mort du tyran Domitien, son successeur permit à Jean de retourner à Éphèse. Apparemment, les empereurs romains n'étaient pas tous des sans-cœur.